VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. À Berlin, conférence ce mardi sur les investissements privés en Afrique dans le cadre de l'initiative intitulée Compact with Africa, créée lors de la présidence allemande du G20 l'an dernier. La chancelière allemande Angela Merkel y a exhorté aujourd'hui les entreprises internationales à investir davantage en Afrique plutôt que de tout miser sur l'Asie au moment où l'Europe cherche à réduire le flux des migrants africains en direction des pays européens. Madame Merkel a estimé que le continent africain avec ses 54 pays disposait d'un énorme potentiel de croissance. 12 pays africains participent à cette initiative, dont l'Afrique du Sud et le Rwanda, qui ont dépêché leur chef d'État dans la capitale allemande. Angela Merkel a fait du développement de l'Afrique une des grandes priorités de son mandat et multiplie ces derniers mois les déplacements sur place. Dans le cadre du programme Compact for Africa, le Ghana, la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont déjà reçu 365 millions d'euros de soutien financier sous forme principalement de prêts bonifiés. Au Burundi, le Parlement burundais a approuvé lundi un projet de loi qui étend la période d'enquête de la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation, jusqu'à la conférence de Berlin en 1885 pour déterminer le rôle de la colonisation sur l'unité des Burundais. La CVR avait initialement été créée en 2014 pour établir la vérité sur les massacres interethniques ayant frappé le Burundi depuis son indépendance en 1962 jusqu'au 4 décembre 2008, date supposée de la fin de la belligérance armée dans le pays. Le nouveau projet de loi a été approuvé hier à l'unanimité par les 39 sénateurs. L'Assemblée nationale s'était également prononcée très largement en sa faveur jeudi dernier, avec 98 voix pour et seulement 2 contre. Politique au Burundi toujours, fin hier à Arusha en Tanzanie du dernier round du dialogue inter-burundais. L'opposition et des représentants de la société civile étaient sur place, mais le gouvernement burundais qui avait demandé un report n'a pas fait le déplacement. Qu'est-ce qui a pu sortir de ce dernier round de discussion? Idriss Fall a joint à Arusha Tassien Sibomana, porte-parole de l'UPRONA et de l'opposition intérieure.
Oui, la session a eu lieu malgré l'absence du gouvernement et nous avons fait le travail qui nous avait été demandé par le président Benjamin Mkapa. D'abord, il a dit qu'au niveau de la facilitation, c'était la dernière session telle que l'a demandé le dernier sommet des chefs d'État tenu à Kampala au mois de février de l'année en cours. Le président Mkapa, comme facilitateur, va rédiger son dernier rapport qu'il va transmettre au médiateur et il va tout faire pour faire convoquer un sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui sera un sommet spécial pour le Burundi.
Benjamin Mkapa donc jette l'éponge en tant que facilitateur.
Je ne dirais pas qu'il jette l'éponge, mais il a terminé le mandat parce que le sommet qui lui avait donné son mandat lui a demandé de convoquer la dernière session, ce qu'il a fait en tant que facilitateur et a terminé sa mission.
Quel avenir pour ce dialogue burundais alors?
D'abord, nous attendons la décision ou les mesures qui seront prises par le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a été annoncé par son Excellence le président Mkapa. Dans notre document qui a été signé par tous les opposants qui étaient réunis, nous avons demandé que justement les Nations Unies africaine qui avait délégué la communauté de l'Afrique de l'Est pour agir en leur lieu et place devrait garder un œil vigilant sur l'exécution du mandat qu'elles avaient confié à la sous-région. Et que donc, si jamais le sommet des chefs d'État ne prenait pas des mesures allant dans le sens de faire sortir le Burundi de la crise, ces deux instances internationales et régionales restent toujours saisies de la crise burundaise. Nous leur avons demandé de montrer au peuple burundais l'autre voie, c'est-à-dire de nous montrer un autre cadre qui va continuer l'analyse de la situation et pourquoi pas trouver la solution à la crise.
Est-ce qu'on peut trouver une solution tant que les Burundais eux-mêmes ne se mettent pas ensemble pour discuter, y compris avec le gouvernement?
C'est ça qui a manqué. Les Nations Unies, l'Union africaine, les organisations régionales, sous-régionales ont pris des résolutions qu'elles n'ont jamais mises en application. Il en va d'ailleurs de la crédibilité de ces organisations. Un pays comme le le Burundi ne peut pas quand même se fier de toute la communauté internationale. Si ces instances sont unanimes que l'insécurité du Burundi peut entamer toute la sous-région, il en va justement de la crédibilité de ces instances internationales qui sont en plus les garantes de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Nous leur avons demandé donc de faire pression au gouvernement et c'est possible. Et si le gouvernement accepte de dialoguer, je pense qu'il y a moyen justement que les Burundais s'asseyons ensemble pour trouver la solution à la crise.
Tassien Sibomana, porte-parole de l'UPRONA et de l'opposition intérieure au Burundi.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Gabon, le parti au pouvoir s'est taillé la part du lion lors des élections législatives des 6 et 27 octobre, en raflant 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale face à une opposition très divisée, selon des résultats officiels. Ces législatives plusieurs fois reportées étaient le premier scrutin d'importance depuis la présidentielle de 2016, marqué par des violences meurtrières, ayant suivi l'annonce de la victoire du président Ali Bongo Ondimba face à son principal rival, Jean-Ping. Côté opposant, le Parti des démocrates de Ginzo Badama devient la première formation d'opposition avec 11 députés. Le Parti Rassemblement Héritage et Modernité, RHM, n'obtient lui que 4 députés et l'Union nationale, 2. Jean-Ping, candidat de l'opposition alors uni à la présidentielle de 2016, a boycotté le scrutin et n'a jamais paru aussi isolé tout en continuant à se proclamer président élu. En République démocratique du Congo, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, continue ses préparatifs en vue des élections du 23 décembre. Elle vient de réceptionner à Kinshasa un lot de camions et aéronefs de l'armée pour acheminer le matériel électoral pour les élections de décembre. Et ce, conformément à la volonté des autorités congolaises de se passer de tout appui international. Nani Talani fait le point sur les livraisons à la CENI hier.
150 véhicules de fabrication russe de marque Kamaz étaient exposés devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante où les autorités ont symboliquement remis les clés à Corneille Naga, président de la CENI. Parallèlement, une dizaine d'avions et hélicoptères ont été remis à la CENI lors d'une cérémonie officielle à l'aéroport international de Ndili dans l'est de Kinshasa. Selon Crispin Atamatabe, ministre congolais de la Défense, ce matériel retournera à la base logistique des forces armées de la RDC après les élections. Il s'agit de l'expression de la souveraineté de notre État. C'est une volonté du gouvernement de voir la CENI être autonome dans l'accomplissement de sa tâche. Par ce geste, le gouvernement veut imposer le respect de la communauté internationale, s'est félicité le ministre de l'Intérieur Henri Mova. Kinshasa avait promis de financer seul ses élections sans appui extérieur.
Au Nigeria, les nouveaux affrontements lundi entre des membres du groupe chiite radical Mouvement islamique du Nigeria, IMN, et les forces de sécurité à Abuja ont fait au moins 3 morts côté chiite, ce qui porte à 6 le nombre de chiites tués depuis samedi dans la capitale fédérale lors des manifestations organisées par l'IMN en soutien à leur leader Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis près de 3 ans. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump doit se rendre ce mardi à Pittsburgh dans l'État de Pennsylvanie, 3 jours après la fusillade qui a fait 11 morts dans une synagogue de la ville, la pire attaque antisémite de l'histoire du pays. Des détails avec Irénée Herman-Umbo.
Donald Trump sera accompagné de sa femme Melania pour exprimer le soutien du peuple américain et partager le deuil de la communauté de Pittsburgh, a déclaré hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. L'homme accusé d'avoir tué 11 personnes samedi matin dans la synagogue a comparu pour la première fois hier devant un tribunal de la ville assis dans un fauteuil roulant après avoir été blessé par balle dans un échange de tirs avec la police. Robert Bowers, 46 ans, n'a répondu que par l'affirmative ou par oui monsieur aux questions posées par le juge fédéral. Le procureur général Scott Brady a indiqué que la prochaine comparution devant la cour était prévue jeudi à 10h. Bowers a été inculpé samedi de 29 chefs d'accusation, dont certains passibles de la peine de mort. Il a tué 11 personnes et en a blessé 6 autres, dont 4 policiers.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.